BFM Business. Good evening business. La grande interview, Edwige Chevrillon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview avec fait exceptionnel, deux invités ce soir. D'abord en studio avec nous Thierry Laborde qui est directeur général délégué de BNP Paribas. Bonsoir Thierry Laborde.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. On va parler conjoncture, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et on va parler mobilité qui est un peu un des nouveaux axes stratégiques de BNP Paribas. On parlera fintech aussi où visiblement vous avez là aussi des ambitions. Mais tout de suite on prend la direction de Washington où nous attend Pierre-Olivier Gourinchas. Il est celui qui fait un peu trembler les marchés depuis hier, depuis qu'il a présenté ses prévisions mondiales. Pierre-Olivier Gourinchas, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le chef économiste du FMI. C'est un moment important pour le Fonds monétaire international puisque c'est la semaine annuelle et tout le monde se retrouve à Washington pour écouter notamment vos prédictions. Prévision, j'allais dire prédiction, justement, lapsus intéressant, Pierre-Olivier Gourinchas. Parce que lorsqu'on regarde ce que dit l'OFCE tout à l'heure, c'est un coup de froid. Vous, lorsqu'on vous écoute ou qu'on vous lit, on se demande si quand même on ne va pas plus vers une récession, bah notamment ce que vous dites ouvertement sur l'Allemagne et sur l'Italie. Coup de froid ou récession ?
Mais écoutez, ce qu'on voit, c'est un gros ralentissement, puisqu'on prévoit que la croissance mondiale va se ralentir à 2,7% l'année prochaine. Sur la zone euro, on a un très fort ralentissement aussi. On anticipe que la croissance sera seulement de 0,5% l'année prochaine. Et donc, effectivement, une inflation qui va rester encore élevée, une croissance qui va être un peu en berne, on va avoir des conditions difficiles l'année prochaine plus que cette année, malheureusement.
Oui. Est-ce que vous diriez quand même, parce qu'il y a encore beaucoup d'hypothèques sur cette moindre croissance qui pourrait virer en récession. Vous avez quand même le problème des taux d'intérêt, de l'inflation, vous l'avez souligné, il y a le problème énergétique, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations sur la stabilité financière, sur le secteur bancaire, il y a aussi beaucoup d'interrogations sur les économies les plus pauvres.
Oui, alors effectivement, on a un certain nombre de facteurs de risque que nous mettons en avant dans notre rapport qui pourraient amener la croissance mondiale et la croissance de la zone euro à être plus faible que ce que nous annonçons. Et ces risques, c'est effectivement un risque de durcissement des conditions sur les marchés financiers, le risque que l'inflation soit plus persistante que ce à quoi nous nous attendons. On a quand même été surpris plusieurs fois à la hausse par l'inflation ces derniers temps, donc il faut quand même être un petit peu prudent. Et puis le fait que la guerre, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça déstabilise les marchés de l'énergie, ça continue de le faire. On a vu les tensions sur le prix du pétrole très récemment et ça pourrait continuer.
Est-ce que, et vous avez raison de le dire, c'est qu'effectivement on voit bien que la guerre en Ukraine, enfin avec la Russie, a franchi une étape supplémentaire. Vous venez à peine de sortir vos prévisions, elles sont encore toutes chaudes. Est-ce que déjà, le temps s'accélère de manière incroyable, déjà vous vous dites elles sont un peu caduques, il faudra peut-être les revoir, peut-être les aggraver?
Alors, pas encore tout de suite quand même, je vous rassure, on est quand même encore sur nos prévisions centrales, mais effectivement, on met en avant les risques autour de ce scénario central. Et pour vous donner une petite idée, on a fait une analyse un peu justement des risques autour des prévisions, et on a une distribution de risques qui fait qu'avec une probabilité d'environ 25%, la croissance mondiale pourrait être inférieure à 2% l'année prochaine. Et 2%, c'est un chiffre qui est vraiment très bas pour la croissance mondiale, c'est un chiffre qu'on a eu que 5 fois depuis 1970. Donc il ne faut pas se dire que c'est positif, tout va bien. Non, c'est quand même des conditions très très difficiles.
Mais parce qu'il faut dire qu'on a perdu le moteur quand même de la croissance, qu'il y a deux moteurs qui étaient d'abord les États-Unis puis ensuite quand même la Chine. Donc les moteurs, là, ils patinent un peu. Une question, vous avez parlé de taux d'intérêt, effectivement, peut-être un durcissement encore supplémentaire. Les marchés financiers, ils sont très instables, ils redoutent ce qui se passe évidemment en Ukraine avec les conséquences énergétiques. Et puis, cette politique monétaire, ce resserrement de politique monétaire. Est-ce qu'ils sont capables de supporter une hausse des taux d'intérêt encore plus forte ?
Alors, c'est ce qu'on espère, évidemment, parce que les banques centrales ont absolument besoin de durcir les conditions monétaires pour, justement, ramener l'inflation à des niveaux beaucoup plus raisonnables. On ne peut pas continuer avec des inflations qui se rapprochent des 10% ou parfois sont au-delà. Donc, en même temps, ce qu'il faut voir, on a beaucoup de discussions sur la question des marchés financiers, est-ce qu'ils vont pouvoir supporter ça. Les banques centrales disposent d'outils pour pouvoir, intervenir lorsque les marchés financiers, certaines poches des marchés financiers, il ne s'agit pas pas des marchés financiers dans leur ensemble. Les banques vont plutôt bien. Les banques ont des niveaux de capitaux qui sont élevés. Elles ont des liquidités. Les problèmes qu'on voit apparaître en ce moment sont plutôt isolés, encore pour l'instant, dans certaines poches du marché. Et les banques centrales peuvent intervenir avec d'autres instruments en fournissant de la liquidité de manière ponctuelle, comme l'a fait la Banque d'Angleterre sur les deux dernières semaines, ou en fournissant, en mettant en place des lignes de crédit qui permettent à certains intervenants sur ces marchés financiers de pouvoir faire face à leurs besoins de liquidité temporaire. Donc, il faut se dire que quand même le sentier de durcissement de la politique monétaire, il est très important de continuer sur le sentier qui a été déjà annoncé. Il ne s'agit pas d'en rajouter nécessairement par rapport à ce qui a été dit, mais de continuer à resserrer les conditions monétaires telles que cela a été annoncé afin de ramener l'inflation dans les clous. Ça, c'est absolument indispensable.
Deux questions encore, Pierre-Olivier Gourin-Chasse. Je rappelle que vous êtes en direct de Washington, du siège du FMI. Est-ce qu'il y a un risque systémique sur le secteur bancaire? Parce que on ne peut pas parler de tous les sujets, évidemment, que vous êtes en train d'aborder, mais il y a un risque beaucoup sur les économies des pays les plus pauvres. On voit quand même quelques signes qui font un peu trembler. Là, on en parlera tout à l'heure avec l'un des dirigeants de BNP Paribas, mais qui font trembler la planète bancaire, ce qui se passe au Crédit Suisse, par exemple, en Europe. Est-ce que pour vous, il y a un vrai risque ou il n'y a pas de risque?
Alors, sur le système bancaire, à proprement parler, je dois dire que nos inquiétudes sont plutôt limitées en ce moment. C'est-à-dire qu'on a quand même une situation qui est très différente de ce qu'on a pu connaître en 2008, au moment de la crise financière mondiale, où les banques avaient des coussins de capitaux qui étaient très faibles, avaient très peu de liquidités, et donc très rapidement, elles se sont retrouvées dans des situations difficiles. La régulation bancaire s'est beaucoup durcie depuis, avec les accords de Bâle III, d'autres mesures qui ont été mises en place par les régulateurs bancaires. Et quand on regarde le bilan des banques actuellement, on considère qu'elles ont des coussins qui vont être suffisants pour pouvoir faire face à un ralentissement de l'économie, à une remontée des taux. Ce qui est plus inquiétant peut-être, ce sont plutôt ce qu'on appelle les acteurs financiers non bancaires, c'est-à-dire que ce soit les fonds de pension, les fonds spéculatifs, dans cet espace-là, les compagnies d'assurance, dans cet espace-là, où la régulation est un petit peu moins harmonisée et où on a un petit peu moins de visibilité, il peut y avoir, comme on l'a vu encore une fois avec le cas anglais, il peut y avoir des poches d'illiquidité. Et alors évidemment, il faut éviter que cela devienne contagieux pour l'ensemble du marché et amène à des conditions financières qui soient très dégradées.
Pierre-Olivier Gourin-Chasse, une dernière question. Est-ce qu'on est rentré quand même dans une économie de cycle de pénurie? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que chaque jour, il y a une pénurie nouvelle. Que ce soit sur les semi-conducteurs, sur le lithium ou le cobalt, que ce soit ensuite sur les talents, là sur l'énergie, en France sur le carburant.
Alors, on a effectivement été soumis à une succession de chocs qui sont des chocs d'offres, que ce soit le Covid, que ce soit la crise énergétique. Et donc, évidemment, c'est un environnement assez nouveau. Je pense que c'est particulièrement saillant dans le cas de l'Union européenne, où la crise énergétique se fait sentir très fortement et où elle aura une certaine persistance. Parce que ce qu'il faut voir dans le cas de la crise énergétique, c'est que quand même la réorganisation des lignes d'approvisionnement en énergie pour la région, ça ne va pas se faire très très rapidement, ça va quand même prendre plutôt quelques années que quelques mois, et donc on va avoir quand même une condition avec des tensions sur les prix de l'énergie en Europe qui vont rester élevées pendant un temps qui n'est pas négligeable.
Merci beaucoup Pierre-Olivier Gourin-Chasse, on aurait pu encore parler avec vous parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'interrogations, mais quand même vous nous avez permis un petit peu, vous nous avez presque un peu rassuré, j'ai envie de dire. Et je rappelle que vous êtes le chef économiste du FMI, vous étiez en direct avec nous de Washington. Tout de suite on retrouve Thierry Laborde.
Good evening business. La grande interview.
La grande interview se poursuit avec Thierry Laborde, dont je rappelle que vous êtes directeur général délégué de BNP Paribas. Est-ce que vous avez écouté évidemment avec grande attention Pierre-Olivier Gourin-Chasse. Est-ce que pour vous, vous êtes d'abord un peu rassuré sur le secteur bancaire? Parce que lui, il dit, on va rappeler que BNP Paribas, c'est la première banque européenne. Il y a un coussin de capitaux suffisants. Vous êtes d'accord avec lui ou
moins? Bien sûr, il y a deux choses. Il y a le coussin de capital, mais il y a surtout des réserves de liquidités. Ce qui est vital pour une banque avant le capital, c'est la liquidité. Les crises bancaires naissent d'absence de liquidité. Ouais. Pour ce qui nous concerne, nous avons plus d'un an de réserve de financement sur les marchés monétaires en réserve de liquidité chez BNP Paribas. Ça doit représenter 430 milliards d'euros.
Ouais. Thierry, d'abord, la question qu'on peut se poser sur la croissance, on a peu parlé de la France parce qu'on en avait parlé hier. Donc, c'est le pays qui s'en sort mieux, ce que souligné hier le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, plus 0,7. Est-ce que vous, là, vous sentez quelque chose à cette crise de carburant? Est-ce que cette fin d'année, elle est plus difficile que prévu?
Alors, bien sûr, il y a de plus d'incertitudes. Hein, oui. Depuis le début de l'été, le milieu de l'été, on voit les nuages qui sont amoncelés. L'économiste du FMI l'a très, très bien décrit. Nous sommes très alignés, d'ailleurs, sur ces prévisions. Nous avons un scénario central, nous, d'une petite récession temporaire courte. Hein.
Coup de froid,
en Allemagne, Italie,
fait,
un petit ralentissement, ouais. Voilà. Et du 0 plus en France. Donc, très proche des prévisions qui ont été
annoncées aujourd'hui. Un petit peu moins, élevé, quand même.
0,7, oui. 0,5, 0 plus. Voilà, c'est 0 plus. Hein. Ouais. C'est faible, hein, 0 plus. Hein, par
L'Allemagne,
rapport
aux... vous prévoyez, parce que c'est très important, en Allemagne, vous prévoyez une récession, effectivement, en Allemagne et en Italie.
L'Allemagne et l'Italie sont très dépendants du prix du gaz. Ouais. La France l'est beaucoup moins. Toutes les industries qui sont dépendantes du prix du gaz vont souffrir davantage que des industriels plus dépendants du prix de l'électricité, par exemple. Donc ça, ce sont des marqueurs. Et c'est vrai qu'il y aura, sur les chaînes d'approvisionnement, des transformations de fond. Il faudra un petit peu de temps. Mais je crois que c'est un accélérateur de beaucoup de transitions, ce qui est en train de se passer. Donc sur période très longue, je pense que c'est plutôt une bonne chose, puisque ça va pousser beaucoup d'industriels à revoir leurs chaînes d'approvisionnement, à revoir... également les chaînes d'approvisionnement en énergie sur période plus longue. Et ça, dans la durée, je pense que ça sera positif pour l'Europe.
Les entreprises, là, vous les sentez... est-ce qu'il y a... Parce que quand on sort de cette entreprise, on dit une grande inquiétude, remboursement du PGE. Puis en même temps, il y en a d'autres qui vous disent ben non, moi, nous, ça va plutôt bien, so far, so good. Hein.
Alors, ce qu'on voit.
Vous, les banquiers, qu'est-ce que vous voyez?
Sur les plus grandes entreprises, il y a énormément de cash flow, même sur les ETI. Ouais. On voit beaucoup de réserves. On voit des projets qui peuvent un peu se différer. Des chefs d'entreprise qui seront prudents dans cette période où l'incertitude est plus élevée.
Qui se décalent.
Qui peuvent projets. Différer des projets, hein, des projets d'investissement.
Est-ce que vous l'observez?
On va attendre un petit peu. On ne l'observe pas encore, mais
d'accord,
dans l'intention,
okay.
On l'entend. D'accord. Dans l'intention, on peut l'entendre,
okay.
Mais pas d'inquiétude majeure. En revanche, ce qu'on voit, c'est plus difficile pour des toutes petites entreprises sur des secteurs comme le commerce de détail, comme la restauration, ou des entreprises créées de façon plus récente.
Ouais. Donc, pour l'instant, vous restez très confiant dans l'économie française, vous. Vous, banquier, vous, BNP Paribas.
Nous sommes... Vous savez, une banque, c'est d'abord une centrale de risque. Donc, notre métier, c'est aussi d'aider les entreprises à mieux gérer leurs risques.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'on a vu tout au long de cette année 2022? Beaucoup de progression sur les couvertures de risque, de change, de commodité, de taux. On est revenu sur un monde de grande volatilité. Donc, la banque est très utile aussi pour aider ses clients, institutionnels et entreprises, à couvrir ces risques.
Ouais. Alors, vous lancez dans... Oh, tiens, une petite question d'abord, je dirais presque d'utilisatrice. Vous allez mettre en commun avec trois autres banques, le Crédit Agricole, la Société Générale, les distributeurs de billets, les fameux DAB, une manière de faire des économies. Quand est-ce que ça va commencer? C'est-à-dire, ce sont les mêmes?
Alors, c'est avec la Société Générale et le Crédit Mutuel. Hein.
Oh, Crédit Mutuel,
voilà,
pardon,
c'était
le Crédit Agricole, je me dis ça, c'est incroyable. Pardon,
nous
excusez-moi.
Nous avons annoncé ce projet,
moi.
Il y a déjà un certain temps. Nous allons le rendre opérationnel, puisqu'il fallait obtenir les autorisations. Nous créons en commun un établissement de paiement, ces trois groupes bancaires, qui va apporter du service pérenne, en particulier dans les points les plus ruraux, pour que le GAB reste et qui va optimiser la permanence de ces GAB dans les zones plus urbaines.
Oui, et donc l'économie sera de combien? Il y aura quand des DAB en moins, forcément, puisque
bah,
ça sera...
Quand vous allez, vous voyez, place de l'Opéra ou rue de Rennes, vous les comptez tous,
oui.
Et vous regardez combien ils sont utilisés, vous dites qu'il y a un peu de gâchis.
D'accord, donc il y aura...
Dans les zones urbaines, il y en aura un petit peu moins.
Potentiellement, on s'en supprimera quoi, un tiers, une moitié?
Il y en aura un petit peu moins, il pourrait y en avoir plus dans les zones les plus éloignées, les zones les plus rurales,
ouais,
pour garder cet accès au cash aux Français.
Alors, nouvelle stratégie de BNP Paribas, vous voulez même, à horizon, je crois, 2025, dégager 1 milliard de revenus supplémentaires sur la mobilité. Alors, j'ai envie de dire, c'est un mot tellement galvaudé que ça fait presque un petit peu peur, la mobilité. Et surtout, qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que BNP Paribas appelle dans la mobilité?
Alors, la mobilité, c'est un marqueur de la transformation de nos économies,
oui,
de nos sociétés.
On est d'accord, mais...
La transition, de l'innovation. Il y a beaucoup d'innovation dans ces secteurs et de nouveaux usages. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons un groupe très diversifié, beaucoup de métiers, que ce soit le coverage des grands constructeurs, des grands équipementiers, la location de véhicules, le financement des ventes, le leasing, l'assurance. On a mis toutes ces équipes ensemble pour créer des solutions, tout en un, pour nos clients corporate, pour nos clients constructeurs automobiles et pour nos clients particuliers. Un exemple,
oui.
Nous avons signé avec Jaguar Land Rover un accord sur 9 pays en Europe pour leur fournir toutes les solutions omnicanales, digitales, pour leurs clients, pour leurs dealers, pour leurs concessionnaires, de location, de financement et d'assurance.
D'accord. Ça, c'est du service quand même.
C'est quoi, du service? C'est du service, c'est du financement.
Et le financement, il est où le financement ?
Le financement, c'est nous qui l'assurons dans cette JV,
ouais,
où nous serons majoritaires. Donc, nous allons consolider ces capitaux dans le groupe BNP Paribas et assurer, bien sûr, une participation au groupe Jaguar Land Rover et apporter à ses clients l'ensemble de la gamme de services. L'automobile est en train de devenir une forme de produit financier. Quand vous le voyez, ce qui permet justement d'avoir accès à des automobiles qui sont plus chers. On voit bien, l'électricité majore de 8 à 15 000 euros selon les modèles, à gamme identique, le prix d'un véhicule. Et la location, le service autour de la location peut rendre ce véhicule accessible.
Surtout, c'est que vous êtes un des leaders de la location avec de véhicules depuis votre grande acquisition. C'est un secteur qui, en fait, est en train de prendre beaucoup d'importance.
Beaucoup d'importance.
C'est la révolution de l'automobile, en fait, vous percute énormément. Quand je dis vous, c'est vous, secteur financier, quoi.
Eh bien, ça donne des opportunités.
Oui,
c'est l'idée,
sûr,
hein. De fédérer toutes les équipes pour mettre en œuvre des opportunités, pour aller chercher de nouvelles flottes. On voit de nouveaux acteurs. La livraison retail, ça ouvre le e-commerce. Il faut bien livrer le colis qui doit arriver dans le dernier kilomètre. Derrière, il y a une camionnette, il y a un petit camion, il y a un petit utilitaire. Eh bien, celui-là, nous le louons à ces acteurs qui sont souvent des indépendants, par exemple.
Ouais. J'en profite pour dire que Carlos Tavares, le patron de PSA, sera mon invité lundi, justement, parce qu'il y a l'ouverture du salon mondial de l'automobile, salon français, avec un petit peu restreint, mais en même temps qui sera assez significatif de toutes ces transformations, cette mobilité dont vous parlez.
Et nous y serons au salon, et d'ailleurs avec Stellantis, pour vous le signaler, nous avons un accord d'exclusivité en Allemagne et au Royaume-Uni pour être leur fournisseur exclusif de captives financières pour le financement de leurs ventes dans ces deux grands pays.
Ça va représenter combien chez BNP Paribas, ça ? Là, c'est 1 milliard prévu, mais enfin, c'est rien. Pour BNP Paribas, 1 milliard, c'est pas grand-chose.
Quand on cumule, quand même. Aujourd'hui, ce travail de synergie entre les métiers, c'est de l'ordre d'1,9 milliard de revenus. On rajoute 1 milliard, vous êtes proche de 3 milliards. Donc c'est quand même des chiffres très très significatifs et qui sont créés par croissance organique. C'est la capacité à les nouer de nouveaux partenariats, à valoriser en les modernisant ses offres. Ça ne nécessite pas d'investir des capitaux à risque. C'est vraiment la croissance organique entre nos différents métiers.
Vous lancez aussi une plateforme pour les particuliers, non ?
On lance en France une plateforme pour les particuliers qui verra le jour au premier semestre 2023 pour apporter toute une offre de solutions de mobilité pour satisfaire les contraintes budgétaires des Français et leur apporter des offres de services dans ce domaine.
Thierry Laborde, il y a aussi les fintechs, parce que vous avez annoncé le rachat d'une fintech qui s'appelle Quantox. Après, on va rappeler que vous avez racheté le compte Nickel, vous avez racheté Floa. Tiens, vous allez racheter Orange Bank ? Ça y est, c'est en vente. Je vous avais déjà posé la question.
Vous m'avez déjà posé la question.
Oui, ça m'intéresse, mais pour l'instant, ce n'est pas en vente. Ça l'est.
Le marché
et
se
on
concentre.
Dit que vous serez intéressé.
Le marché se concentre sur les néobanques. Vous voyez, les néobanques en France, c'est 15 millions de clients, c'est 400 millions de pertes au cumul. Donc évidemment, il va y avoir un phénomène de concentration. Est-ce que nous serons dans celui-là ou dans un autre ? Nous verrons. Nous avons une néobanque qui s'appelle Nickel, qui est profitable, qui se développe dans 4 pays aujourd'hui. Elle ouvre l'Allemagne en début d'année prochaine, après avoir ouvert l'Espagne, la Belgique et le Portugal.
Donc là, vous nous dites, Orange Bank, vous regardez le dossier.
Je ne vous dis pas ça, Edwige. Vous dis que le secteur va se concentrer et nous verrons si nous sommes un acteur de cette concentration ou pas.
Non, vous avez dit que vous seriez un acteur de cette concentration, mais qu'il y avait différentes concentrations. Donc,
Nous sommes, et vous l'avez bien compris, à l'exemple de la mobilité, sur un sujet de croissance organique. Nous poussons beaucoup la croissance organique. C'est l'exemple de Nickel, acquis en 2017, et que nous poussons beaucoup dans son développement européen.
Mais il y a eu une acquisition avant. Vous avez fait de l'acquisition de Nickel.
Bien sûr.
Vous pouvez acquérir Orange Bank et puis pousser sa croissance.
Mais ce n'est pas
organique.
Ce que je vous ai dit.
on voit que cette concentration, elle devient nécessaire parce qu'il y a des difficultés. Enfin, pour les fintechs, pour les néobanques.
400 millions de pertes, c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Dans une période où les taux montent, où la liquidité est plus difficile, c'est quand même un changement de règles du jeu.
Oui, c'est ça qui va accélérer cette concentration.
Exactement.
Ouais. Quantox, ça vous sert, va vous servir à quoi?
Alors là, c'est très important, Quantox, parce que c'est une innovation dans la technologie. C'est une super fintech qui a développé un software, un logiciel, qui permet aux entreprises de mieux gérer leurs risques de change. On en parlait avec l'économiste du FMI, hein, le risque de change entre les devises émergentes, le dollar et l'euro, c'est un vrai sujet. Donc ça va nous permettre d'apporter des services beaucoup plus efficaces à nos grands clients entreprises en Europe.
Oui. Vous êtes plutôt quand même, quand je vous écoute, Thierry Lagbard, en conclusion, il nous reste une minute, vous êtes quand même plutôt rassurant, vous aussi, malgré les chiffres du FMI, malgré les chiffres... Vous êtes quand même assez... Quand on écoute votre discours...
Bien sûr.
Vous êtes quand même assez rassurant sur la santé des entreprises.
Bien sûr.
Donc, ça veut dire l'économie française.
Exactement.
Non ?
Exactement. Les entreprises que je vois, tous les chefs d'entreprise que je vois, leur première difficulté, ça reste de recruter des talents.
Ouais.
Ça reste le premier sujet de préoccupation des chefs d'entreprise que je vois. Et un banquier, ça gère des risques, ça doit être à la fois réaliste, mais aussi constructif. Donc on se veut très constructif pour aider nos clients.
Oui, juste un point, la hausse des taux, ça a forcément un impact sur le niveau d'emprunt.
Oui, mais ça a plutôt un impact
bancaire.
Positif pour les banques.
Sur les PGE, non, parce que le taux a été fixé.
Bien
heureusement,
sûr,
heureusement.
Bien sûr, bien sûr. Et le remboursement des PGE se passe très bien, sans difficulté majeure.
Ouais. Merci beaucoup.
Merci.
Thierry Lagbard, donc la mobilité, nouvel axe stratégique, puis surtout que derrière ce mot un peu abscon, enfin qui est un peu dire tout, il y a toute une déclinaison et il y a une vraie stratégie derrière. Merci d'avoir été avec nous, directeur général délégué de BNP Paribas. Voilà, c'est la fin de la grande interview. On se retrouve bien sûr demain. Tiens, demain, autre chose, Thierry Marx sera avec nous, là, le chef étoilé, mais il a des petites velléités syndicales. Il nous expliquera tout demain, à suivre dans un instant. En tous les cas, c'est Tekkenco. Et puis, bien sûr, vous pouvez podcaster. Il y a même le QR code qui va s'afficher. Cette interview de Pierre-Olivier Gourin-Chasse, le directeur général, le chef économiste de FMI, et puis le directeur général de BNP Paribas. Voilà, j'y suis arrivé. Merci. Bonne soirée.
Good evening business. La grande interview.